France Inter.
Carnet campagne, bonjour. Dans l'Yonne, aujourd'hui, nous allons rejoindre un jardinier paysagiste pépiniériste qui a baptisé son espace de production et de formation de Jardin Punk. Éric Lenoir n'est pas tout à fait un inconnu pour avoir publié un traité du Jardin Punk aux éditions Terre Vivante en octobre dernier. Sous le principe d'un manuel pratique de non-jardinage ou comment créer et gérer un jardin quand on est fainéant, rebelle, fauché et écolo. C'est pas moins ça. Nous irons ensuite du côté de l'Orient pour visiter les installations photovoltaïques de l'association Bretagne Énergie Citoyenne avec Jean-Luc Danet.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Éric Lenoir, bonjour.
Bonjour Philippe.
Éric, je vais tenter une présentation synthétique. Vous êtes au jardin d'alimentation, ce que Gilles Clément est au jardin d'agrément. Est-ce que ça vous va?
Je ne suis pas totalement convaincu parce que je ne fais pas que du jardin d'alimentation.
Je généralisais, je schématisais un tout petit peu. Parce que avec vous, on va parler d'une approche très particulière qui a fait l'objet d'un livre remarquable, « Grand traité du jardin punk », préfacé par Didier Lestrade chez Terre Vivante. C'est quoi un jardin punk ?
Un jardin punk, c'est un jardin où on s'affranchit de ce qui n'est pas nécessaire et qui pourrait être néfaste. C'est-à-dire qu'on s'affranchit des conventions, déjà de base. Dans une visée qui est économique, avec tout ce que peut intégrer le terme d'économie. Économie d'énergie, économie de ressources et économie d'action, ce qui fait que c'est plutôt favorable à des choses assez prépondérantes telles que la biodiversité, par exemple.
Est-ce que ça préfigure l'avenir de notre société? Parce que quand on dit punk, on dit no future.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que justement, ça, je pense que ça parle surtout du présent de notre société, où on a un état des lieux qui est absolument dingue en termes de destruction du vivant. Et on entend constamment les gens dire « je peux pas parce que je n'ai pas le temps » ou des personnes préfèrent mettre des robots tondeuses pour ne pas avoir à s'occuper du jardin et proposer une alternative à toutes les dérives qu'on a pu connaître dans le monde du jardin. Ça me paraissait un peu prioritaire dans le domaine qui était le mien en tout cas.
Je faisais la comparaison avec Gilles Clément sur le principe de laisser la nature s'exprimer.
Oui, ça c'est très important. On a beaucoup cherché à maîtriser le jardin pour des raisons qui n'étaient pas forcément mauvaises. Hein. Quand on avait peur d'avoir des parasites, quand on avait peur d'avoir ce qu'on appelait toutes les sales bêtes, les mauvaises herbes, qui sont des mots aujourd'hui sur lesquels on revient complètement. On s'est protégé de l'extérieur et de la nature qui faisait peur pour faire un objet totalement maîtrisé. Et on redécouvre aujourd'hui, comme si on inventait la poudre, en fait, les végétaux arrivent à très bien pousser sans nous, par exemple.
Il y en a qui sont empoisonnants. Parce que je prends cet exemple parce qu'il est donné dans le traité, ce sont les ronces.
Alors la ronce, oui, c'est empoisonnant potentiellement, et c'est aussi une merveille. C'est amusant parce que je suis allé en forêt ces derniers jours, et je suis allé observer notamment un roncier fabuleux qui s'est installé dans une friche. Et grâce aux ronces, en fait, des essences comme le chêne, le charme peuvent réapparaître, protéger des petits cervidés à l'abri de la lumière quand ils sont très jeunes et dans un sol qui va être rendu plus fertile par la ronce. Oui, la ronce peut être nuisible là où elle nous gêne vraiment quand on s'accroche les fesses dedans, mais par contre elle a un rôle écologique qui est phénoménal.
Alors, vous avez une pépinière, vous dites une pépinière aquatique, en quoi cela consiste-t-il?
Pépinière aquatique, oui. J'y cultive principalement, enfin c'est surtout Cyril, mon ouvrier, qui cultive des choses là-bas, des plantes pour les milieux humides, les bassins, les mares, pour éventuellement la phytorémédiation, la phytoépuration, des procédés de filtration de l'eau par l'intérieur des plantes, ou le réensauvagement de certains milieux qui ont été abîmés.
Alors, Jardin Punk, ça a permis beaucoup de parler de votre travail avec cette mise en avant via le traité, mais c'était l'esprit que vous vous donniez au départ, vous qui avez été formé dans cette école du Breuil, à ne pas confondre avec la ferme, qui est une école dans le 12e arrondissement à Paris. On y apprend quoi? On est destiné à quoi? Et vous, vous destinez à quoi?
Quand je suis rentré dans cette école fabuleuse où on a 25 hectares de parc en plein bois de Vincennes, L'idée, c'était de créer des jardins, tout simplement. Je voulais créer, faire des endroits qui soient beaux, qui soient agréables, avec une nature idéalisée qui serait présente. Et puis, plus j'ai avancé, plus je me suis rendu compte que l'idéalisation de la nature lui était extrêmement nuisible.
J'aime bien votre histoire. Vous avez voulu un jour quitter l'Île-de-France, votre 9-3 d'origine de Rosny sous Bois pour vous envoler, puis finalement, à mi-chemin, vous tombez quand même dans le hameau de la Potenotte à Montholon. Il fallait quand même le faire. Hein. C'est une friche qui vous tendait ses feuilles.
C'est une friche qui me tendait ses feuilles. J'étais déjà arrivé dans Lyon depuis un moment, quand j'ai découvert cet endroit. Et oui, j'ai eu la chance qu'en fait, une parcelle agricole se libère, ce qui est extrêmement difficile à attraper quand on n'est pas exploitant agricole classique, même si on est pépiniériste. Et ça m'a permis d'y faire le jardin. Ouais.
En vous écoutant, on se dit, la vie peut être belle, et on en a la preuve avec vous. Il y a différents liens, je vous conseille ericlenoirpaysagiste.com, mais aussi la pépinière aquatique. Et puis, si vous allez à Montholon, du côté de Montholon, il y a la pépinière, il y a les jardins, entre autres le jardin partagé, le jardin pédagogique, et puis le grand traité du jardin punk aux éditions Terre Vivante. Merci Eric.
Merci Philippe.
France Inter, carnet de campagne.
Dans Lyon, encore un écomusée extraordinaire, c'est la pyramide du Loup. Nous sommes à Toussy, ce lieu tient autant de la pyramide contemporaine que de la soucoupe volante, c'est impressionnant. Et ce lieu propose de mieux comprendre l'évolution des relations entre l'homme et le loup depuis la préhistoire à nos jours. Au milieu, il y a un centre audiovisuel et tout autour des espaces, terre sauvage, terre d'histoire et de chasse ou terre de légende pour mieux s'immerger dans chaque période. Le plus surprenant quand même, la prouesse technique de cet écomusée haut de 15 mètres pour une surface au sol de 800 mètres carrés dont la toiture est composée de 900 000 tuiles en bois de chêne. Il y a en prévision la création d'un jardin permaculturel. Il va être construit en chantier participatif tout au long des semaines à venir avec l'implication des scolaires. D'une surface d'un hectare, le jardin comprendra des plantations végétales et une partie potagère. Et par ailleurs, tout au long de l'année, l'équipe associative organise des animations pour les scolaires autour du jardinage, de la biodiversité, des écosystèmes, lapyramidedeloup.com pour le site. Jean-Luc Danet, bonjour.
Bonjour.
Vous présidez On s'y met. Alors, je vais épeler. Hein. O-N-C-I-M-E, accent grave, entreprise issue de l'association Bretagne Énergie Citoyenne, créée en 2009, et la vôtre en 2015. Et vous proposez des investissements citoyens participatifs sur la région de Lorient, sur la base d'installations de panneaux photovoltaïques. Vous avez commencé par la Biocoop de Mélac.
Voilà. Alors la Biocoop de Mélac, c'est une des premières installations citoyennes de production d'énergie renouvelable de Bretagne. Mmh. On a fait ça en effet en 2009 et à notre grande surprise, on a réussi à réunir en vraiment peu de temps une centaine de personnes qui étaient intéressées par cet investissement participatif.
Mmh. Et vous vous êtes développé à partir du moment où vous avez été sollicité par la ville de Lorient. Mais la particularité chez vous, Jean-Luc, c'est qu'on ne revend pas cette électricité à EDF, on la garde et elle est consommée sur place.
Voilà, tout à fait. C'est une façon de consommer de l'électricité au plus court. Hein, et l'électricité produite sur les toits est directement consommée dans les bâtiments, soit par des écoles. On a équipé comme ça deux écoles, soit par un centre de formation pour des adultes, et même à la mairie. Sur la mairie de Lorient, il y a actuellement 80 panneaux qui produisent de l'électricité.
Et la première épargne de départ qui a pu permettre ces installations relève des 176 citoyens actionnaires dont s'y met.
Nous avons actuellement à peu près 500 panneaux. Hein, sur la ville de Lorient, alors qu'ils sont sur des bâtiments communaux, comme on le disait tout de suite, et aussi sur deux supermarchés Biocoop. On a commencé avec 46 actionnaires, et au fur et à mesure des projets que nous avons menés, nous avons augmenté, parce que c'est un peu notre but, c'est de faire participer un maximum de gens. Et des 46 fondateurs, on va dire, on est arrivé aujourd'hui à 176 personnes qui ont participé financièrement, mais pas que. Hein, de temps en temps, notamment sur les écoles. On peut aller donner un coup de main au montage aussi de la centrale photovoltaïque. On l'a fait déjà sur deux écoles, mais là, on n'y va pas en tant que professionnel, on y va en tant que bénévole pour donner un coup de main, pour visser, pour connecter. Voilà.
Ouais, je ne sais plus où est la nuance et la frontière entre le bénévolat et le professionnalisme. Parce que vous êtes devenus quasiment des professionnels de l'installation, de la location de panneaux photovoltaïques.
Presque, mais on fait bien attention à ne pas dépasser nos compétences. Mmh. Lorsque sur des questions juridiques, par exemple, il faut faire appel à des professionnels, on fait appel à des professionnels. Et lorsqu'il s'agit d'acheter du matériel, ça, on peut le faire, hein, tout le monde le fait, mais lorsqu'il faut installer complètement une centrale, comme on l'a fait sur les deux magasins Biocoop que l'on équipe, eh bien, là, on fait appel à une entreprise, bien sûr.
Oui. Alors, sur le principe, vous louez la centrale aux bénéficiaires ?
On loue la centrale. L'idée, c'est que on fait appel à des souscripteurs,
oui,
à des actionnaires citoyens qui veulent bien participer. Donc, on amasse comme ça de l'argent et avec cet argent, on achète une centrale. Alors ça, c'est vrai pour les supermarchés. Pour la ville de Lorient, on n'achetait que les panneaux. Mais le principe reste le même. On achète du matériel, on le loue à celui qui va bénéficier de l'électricité qui sera produite sur son toit. C'est une formule un petit peu originale, mais qui nous laisse beaucoup de liberté. Mmh. Les autres sociétés comme les nôtres, comme la nôtre, qui donnent dans l'énergie citoyenne, vendent l'électricité. On vend de l'électricité à EDF. Nous, on ne vend pas d'électricité, on loue du matériel. L'électricité est consommée sur place.
Et les bénéfices de la location permettent de réinvestir de nouveaux développements. Et alors, concernant la location, vous avez eu l'idée de mesurer cette location et de la limiter à 7 ans avant la possibilité d'acheter la centrale.
Voilà. Alors ça, c'est une évolution. Hein, au tout début de notre aventure, on louait sur 15 ans, mais on a eu des discussions vraiment intéressantes avec des juristes, notamment une juriste parisienne qui nous disait « Vous êtes trop près du crédit bail, il faut que vous vous éloigniez du crédit bail. » Et donc on a raccourci la durée de location, donc on l'a raccourci à 7 ans. Et au bout de ces 7 ans, on vend la centrale à celui qui l'utilisera sur son bâtiment par la suite.
Original, vraiment. Oncimet.com pour l'adresse, et on vous mettra aussi en lien l'adresse de Bretagne Énergie Citoyenne. Merci Jean-Luc pour cette démarche, cette initiative. Vous qui, comme l'écrit Christian, votre vieil ami, dit Jean-Luc est le seul employé bénévole de la société.
Ouais, je vous fais un gros bisou à Christian.
Ouais, merci.
Au revoir.
Avant de rejoindre le jeu des 1000 euros dans Lyon, un petit rappel sur les départements que nous allons traverser les semaines prochaines, en particulier à partir de la mi-février, le département de la Drôme, celui du Rhône et celui de la Savoie, si vous habitez ces départements. Merci de continuer à correspondre avec nous pour les bonnes nouvelles et les solutions du côté de chez vous.